colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Jérôme Delespinois, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, responsable du programme Guerre et stratégie aérienne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et docteur en histoire de l'Université Paris-Sorbonne.
Alors, l'Empire de l'air, bien sûr, ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai pris cette illustration du secret de l'Espadon. C'est un petit peu abusif, puisque l'empereur Bassam Dassault lance donc ses missiles, lance sa flotte aérienne à l'assaut du monde libre. Mais ensuite, il y a bien des forces terrestres qui viennent occuper Londres, Paris, Karachi et tout le territoire de ces puissances. Donc, je me suis juste servi de cette illustration, cette magnifique illustration de Jacobs. Ce n'est pas tout à fait ce dont je veux parler. L'Empire de l'air, en fait, c'est l'idée qu'on a vue cet après-midi, ou l'objectif de cet après-midi, c'était de voir comment les constructions impériales, terrestres, les constructions impériales maritimes. Et donc, je vais examiner, étudier et soumettre à votre sagacité l'idée qu'il peut y avoir aussi une construction impériale de l'air, c'est-à-dire comment on peut utiliser cette puissance aérienne. Alors, c'est très futuriste, mais c'est un petit peu futuriste. C'est l'idée que pendant toute la période historique, il y a eu deux formes de puissance qui ont été théorisées par les géopoliticiens, une forme de puissance terrestre et une force de puissance navale, et que ce soit pour Mackinder, pour Mahan, etc., chacun y a vu la supériorité d'une forme de pouvoir sur une autre, et que après, donc j'ai adopté un plan chronologique, et qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nouvelle forme de puissance qui peut conduire à une nouvelle forme de construction impériale et qui serait plus éthérée, on peut dire, qui serait un empire de l'air. Donc, le premier à avoir théorisé ces constructions impériales, si on peut dire, ou pas tout à fait théorisé, c'est Mahan, avec son ouvrage « The Influence and Civic Power Open History ». Mais, comme on l'a souvent dit, Mahan a décrit, a fait une étude de cas d'une période donnée de l'histoire, d'une période où s'est affirmée cette suprématie maritime de 1492 à 1914. Donc c'est une période donnée de l'histoire. Et puis, comme l'a dit Rosensky dans le commentaire de Mahan, il y a très peu de théories dans cet ouvrage. Il y a surtout une étude de cas sur les fondements terrestres de la puissance maritime. Et une génération plus tard, et quelques semaines seulement après l'envol d'Orville Wright sur son avion Flyer en 1903 sur le champ de Kitty Hawk, on a Mackinder qui théorise une autre forme de pouvoir, qui cette fois est une forme de pouvoir terrestre, et il identifie ce qu'il appelle initialement la région pivot, le pivot géographique du monde, qui plus tard il parlera de Heartland en Eurasie, et il affirmera « Celui qui gouverne le Heartland contrôle l'île-monde, qui gouverne l'île-monde contrôle le monde ». Ensuite, il y a eu quelques variations avec Spike Mann, avec un grec Dimitris Kitsikis, qui ont nuancé cette vision du géographe britannique en réévaluant le rôle de la puissance navale, en identifiant que ce Heartland ne se situait pas au cœur du continent eurasiatique, mais plutôt dans la périphérie, dans ce que Spike Mann appelle le Rimland, ou ce que Kitsikis appelle la région intermédiaire. Mais dans ce type d'analyse géopolitique, que ce soit aussi bien Mahan ou que ce soit Spike Mann ou Mackinder ou Kitsikis, il y a un raisonnement en deux dimensions. Et le facteur aérien en lui-même n'a pas été pris en compte. Et donc, il y a eu ce facteur, la prise en compte du facteur aérien est assez apparaît un petit peu avant l'aviation. Il y a quelques. Cet empire de l'air, bien sûr, est toujours resté une pure conjecture intellectuelle, mais il a été esquissé par des géopoliticiens et des théoriciens qui ont envisagé l'emploi de l'aviation pour mettre en œuvre un projet politique en tenant compte des facteurs géographiques. Et donc, c'est ce que je vais examiner en deux parties. Une première partie sur cette. Deux parties chronologiques. Une première partie où je vais examiner la manière dont cette notion, ce concept d'empire de l'air a été exprimé dès la fin du 19e siècle, d'abord à partir des voies aériennes, puis après à partir du fait que cette troisième dimension permettait de sublimer la notion de frontière, et puis comment les géopoliticiens allemands vont créer véritablement, enfin tenir compte du facteur aérien dans cette vision géopolitique du monde qui s'exprime et qui sera utilisé partiellement par les nazis. Le deuxième point, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, comment, en particulier, tout d'abord, à travers le développement du transport aérien, on renouvelle cette vision du monde, et comment comment, avec en plus le déclenchement de la guerre froide et l'intensification de la guerre froide, on arrive à ce qu'on pourrait appeler une amorce de première construction impériale avec cette puissance aérienne des États-Unis qui se développe à la surface du globe. Le premier point, donc, c'est cette conception d'un empire de l'air. Les premiers théoriciens comme Clément Ader ou William Mitchell définissent ce qu'ils ont appelé des voies aériennes. Et en particulier Clément Ader, dans son ouvrage de 1909, l'aviation militaire, prône l'établissement de cartes par les services topographiques et météorologiques sur lesquelles doivent figurer ce qu'il nomme, les bonnes routes atmosphériques et qui doivent constituer, selon lui, la grande préoccupation de la stratégie et de la tactique. Selon un raisonnement pratiquement identique, William Mitchell, le général Mitchell, pionnier de l'aviation aux États-Unis, dans son ouvrage Skyways, qui est un petit peu postérieur, en 1926, esquisse également des voies aériennes qui, pour lui, doivent être contrôlées pour pouvoir développer la puissance aérienne. Et en suivant ces routes aériennes, Mitchell va un petit peu plus loin, puisqu'il détermine une région qui, selon lui, a une importance essentielle dans le développement de la puissance aérienne, c'est l'Alaska. Alors, il s'est intéressé très tôt à l'Alaska, puisque en tant que transmetteur, il avait contribué à l'établissement du premier câble qui reliait l'Alaska à l'État de Washington. Il en avait tiré un livre, et puis surtout, il avait écrit une biographie du général Greely, qui est un des grands explorateurs du Grand Nord canadien. Et donc, mais il a vu, grâce à cette expérience en Alaska, dans l'Alaska, une région essentielle pour le développement de la puissance aérienne des États-Unis. Il témoignera devant la Chambre des représentants en adoptant une formulation qui est assez proche de celle utilisée par Mackinder. Il déclare « L'Alaska est l'endroit le plus central dans le monde pour les avions, et ce n'est vrai ni de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique du Nord. Je crois qu'à l'avenir, celui qui possédera l'Alaska dominera le monde, et je pense que c'est l'endroit stratégique le plus important dans le monde. » Ces routes aériennes et ces régions propices au développement de l'aviation doivent permettre l'avènement du transport aérien. Et comme les idées de Mahan sont fondées en grande partie sur la supériorité des moyens de transport maritime sur les moyens de transport terrestre, et qu'ensuite Mackinder fonde une partie de ses théories sur l'idée que, grâce, depuis l'avènement du chemin de fer, les moyens de transport terrestre sont supérieurs aux moyens de transport maritime, des théoriciens vont prendre prétexte de la naissance du transport aérien pour affirmer d'autres idées géopolitiques et pour esquisser, c'est le deuxième point, l'idée d'un empire de l'air. Et cette idée d'empire de l'air, c'est-à-dire d'un bouleversement des relations entre États, d'un bouleversement géopolitique dû au développement du transport aérien, est esquissée en premier lieu par un Français, qui est le capitaine Ferber, qui est un contemporain de Clément Ader, qui a joué un grand rôle dans le développement de l'aéronautique, qui malheureusement mourra dans un accident d'avion juste après avoir écrit son ouvrage « L'aviation, ses débuts, son développement » en 1909, mais qui est un ouvrage remarquable et dans lequel il parle un petit peu de ce rôle du transport aérien. Alors c'est une citation un petit peu longue, c'est pour ça que je l'ai mise, je ne sais pas si c'est lisible sur cet écran, où dans cette citation, il montre que peut-être il a lu Mahan, ou tout au moins qu'il est sensible aux arguments qui sont développés par Mahan. On a dégagé récemment la raison pour laquelle la maîtrise de la mer faisait la fortune de ceux qui la possèdent. Dans l'histoire, Tyr et Sidon, Carthage, Rome, Venise, la Hollande, l'Angleterre en témoignent successivement. C'est parce que seul le commerce enrichit les peuples et qu'il se fait à travers les frontières. Une frontière terrestre ne faisant communiquer que deux peuples n'a pas de rendement. Au contraire, une frontière maritime étant commune à tous les pays baignés par la mer en a un excellent. En généralisant, le maximum est obtenu par la frontière aérienne, qui est commune à tous les pays. L'empire de l'air doit donc fatalement enrichir bien davantage la nation assez heureuse pour s'y élancer la première. On est en 1908, hein, donc on voit que par analogie de raisonnement, il l'emploie, il ouvre des perspectives sur le développement du transport aérien et du commerce. Il n'est pas le premier à employer l'expression empire de l'air. Le premier à employer l'expression, c'est un Français, c'est Louis Mouillard, qui a joué un grand rôle également dans le développement de l'aviation, qui écrit un livre en 1880 qui s'appelle « L'Empire de l'air », mais c'est un essai d'ornithologie appliqué à l'aviation dans lequel il étudie le vol d'un certain nombre d'oiseaux pour en déduire un certain nombre de propriétés que doit avoir un plus lourd que l'air motorisé. Et c'est un des premiers, donc en 1881, à soutenir l'idée d'un plus lourd que l'air motorisé. En particulier, il étudiera le vautour d'Égypte. Et les constatations de Louis Mouillard vont être d'une utilité essentielle pour les gens qui, de l'autre côté de l'Atlantique, Chanute, les frères Wright, etc., parviendront les premiers à faire décoller un plus lourd que l'air motorisé. Mais donc, Mouillard est donc ce premier et puis ensuite Ferber a employé cette expression « empire de l'air ». Ces publications affirment que l'aviation est susceptible de changer l'organisation des relations entre États, aussi bien dans le domaine politique, culturel qu'économique, mais il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que se développent ces intuitions initiales, compte tenu des proportions prises par l'aéronautique militaire pendant la guerre, puisque la plupart des compagnies aériennes, la première compagnie aérienne, c'est 1909, mais la plupart des compagnies aériennes civiles se développent en 1919. La société des lignes Farman, par exemple, commence en 1919 avec, en faisant voler des gros bombardiers de la Première Guerre mondiale, le Goliath, le Farman Goliath, sur des lignes et commence à desservir Londres, Bruxelles, Strasbourg, un certain nombre de capitales européennes. Et déjà apparaît, dès ses débuts du transport aérien civil, la forte valeur géopolitique de ces liaisons aériennes, qui est soulignée par un Allemand, Hans Hochschuller, qui écrit en 1930 « La géopolitique du transport aérien est déterminée par trois cercles de force, les efforts politiques des États, les relativités anthropogéographiques et les forces physiques de la surface de la Terre ». Et on voit bien que ces trois facteurs, à la fois les relations politiques d'État à État, les affinités culturelles et ensuite les facteurs physiques, jouent dans l'établissement de ses premières relations aériennes, au début du transport aérien militaire, on peut penser aux liaisons aériennes qui sont établies avec les capitales des pays de la Triple Entente, que ce soit Bucarest, que ce soit Belgrade, que ce soit Prague. Cet aspect géopolitique du facteur aérien sera principalement développé par les Allemands, et un des plus grands géopolitologues allemands, Karl Haushofer, qui est un général bavarois, qui sera nommé en 1921 professeur de géographie à l'université de Munich et qui présidera l'Institut de géopolitique, et donc qui est un des pères de la géopolitique allemande, qui a surtout travaillé sur la notion de puissance navale, qui a travaillé sur le Pacifique, et puis surtout qui est connu pour sa notion de frontière dynamique, hein, sur le fait que la frontière, c'est pas quelque chose qui est fixé par les traités, mais c'est quelque chose qui est dynamique et qui dépend des peuples. On voit bien où Haushofer veut en venir dans les années 20, donc ces idées seront reprises par les nazis. Haushofer intègre dans ses travaux géopolitiques le facteur aérien. Un exemple, dans l'ouvrage qu'il publie en 1938, « La politique mondiale d'aujourd'hui », où il publie par exemple cette carte, alors c'est un peu de mauvaise qualité, donc qui représente la Méditerranée, où on a des cercles qui représentent les rayons d'action des avions en fonction soit des bases italiennes, soit des bases britanniques. Donc on a en noir les rayons d'action des avions britanniques à partir des bases britanniques en Méditerranée, et puis en cercle blanc, les rayons d'action des flottes, de la flotte aérienne italienne, en fonction de ses propres bases, soit en Italie, soit en Afrique du Nord et en Libye. Et on voit, et donc dans ce livre qui analyse la politique mondiale, la politique internationale en 1938, on voit bien que Haushofer prend en compte le facteur aérien et l'influence que peut avoir la présence de flottes aériennes sur les marges de l'Europe ou sur différents théâtres d'opération. Et dans la lignée de Haushofer, d'autres auteurs allemands étudient l'influence géopolitique de la puissance aérienne. On peut en citer quelques-uns. Erhard von Roden, par exemple, qui était aussi un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, qui avait ensuite été envoyé à Lipsec en Russie pour apprendre à voler, et puis qui a rejoint la Luftwaffe lors de sa création, en 1934, qui écrit en 1938 un ouvrage intitulé « De la guerre aérienne conçue en fonction du commandement et de l'emploi de la force aérienne moderne », qui est remarquable puisqu'il définit la guerre aérienne d'une manière très très large et d'une manière géopolitique, et on voit bien que dans cette guerre aérienne a un rôle politique, puisque Erhard von Roden définit la guerre aérienne comme un art autonome coercitif utilisant la force psychologique ou matérielle, ou tout simplement menaçant d'employer la force, qui peut influencer rapidement et de manière déterminante les relations interétatiques des peuples sans même avoir à franchir les frontières des États. Donc pour lui, la guerre aérienne, c'est une manière d'influencer les relations interétatiques des peuples sans avoir à franchir la frontière des États. Donc c'est une définition très politique de cette puissance aérienne, pas du tout militaire. Et il présente en particulier un schéma dans cet ouvrage de 1938, sur le même schéma, même méthode que Haushofer avait employé dans son ouvrage, où on voit le rayon d'action de flotte, ce qu'il nomme opérative. Donc on voit en cercle noir les rayons d'action des flottes allemandes et puis des flottes japonaises qui se rencontrent et qui couvrent pratiquement tout le territoire de l'URSS, tandis qu'on voit en en très plein, les rayons d'action, des flottes qui se recouvrent partiellement, des flottes britanniques, sud-africaines, des éléments britanniques qui sont stationnés en Inde ou au Proche-Orient, et puis ensuite les rayons d'action des flottes américaines. Donc on voit bien que ce facteur aérien est pris en compte par cette école géopolitique allemande avant la Deuxième Guerre mondiale. Et celui qui aura l'influence la plus importante, c'est Robert Knauss. C'est un aviateur, c'est d'abord un fantassin de la Première Guerre mondiale qui a ensuite passé dans servi à la Lufthansa aux côtés de Milch, qui deviendra ensuite l'adjoint de Göring. Qui passe dans la Luftwaffe en 1934 lors de sa création, et qui, avant de passer à la Luftwaffe, lorsqu'il est aux côtés de Milch en 1933, écrit un mémorandum dans lequel il propose la constitution en fonction de ce raisonnement sur les possibilités d'une flotte opérative, mais en fonction aussi des objectifs de la politique étrangère allemande, la constitution d'une grande flotte de bombardement allemande. Et il définit les capacités de cette flotte en fonction des objectifs de la politique étrangère allemande, c'est-à-dire une flotte qui est capable de bombarder Paris et une flotte qui est capable de bombarder Varsovie. Il n'est pas question de Londres, il n'est pas question de Moscou, donc il est question d'une flotte qui doit avoir un rayon d'action de 800 km pour pouvoir, à partir des frontières allemandes, atteindre Paris ou à partir des frontières allemandes à l'est, atteindre Varsovie. Et donc il propose la flotte d'une création de 2000 bombardiers moyens ayant 800 km de rayon d'action et pouvant emporter une charge utile de 2 tonnes de bombes. Et c'est à partir de ce mémorandum qui date de 1933, à partir de ce raisonnement géopolitique qui a été initié par l'école de géopolitique allemande, que Hitler décidera, programmera l'équipement de la Luftwaffe en 1933. La Luftwaffe va devenir ce superbe outil d'expansion de l'Allemagne en 1939 et 1940, donc au service des objectifs politiques du Troisième Reich, si bien que Otto Nuck, en 1940, peut écrire, je cite, « Toujours est-il que c'est la Luftwaffe qui a ouvert les portes du succès dans cette guerre ?» Et il ajoute, c'est grâce au succès des batailles aériennes allemandes obtenues sur les fronts de l'Ouest et de l'Est que la Luftwaffe est en passe de devenir un facteur géopolitique propre. Sa vitesse et sa portée incroyable permettent de raisonner en termes de continent. Donc certes, le Troisième Reich n'est pas cet empire de l'air qui a été décrit, mais c'est une construction politique qui étend sa domination sur les terres grâce à la puissance de son instrument aérien dans un emploi combiné avec une puissance terrestre. Et il faut attendre l'étape suivante et franchie après la Deuxième Guerre mondiale, concomitamment avec une représentation renouvelée du monde, en particulier par l'intermédiaire d'un géographe américain qui s'appelle George Rainer, qui, en 1944, va écrire cet ouvrage « Human Geography in the Air Age ». On a changé de période, on est après la Deuxième Guerre mondiale, on a des bombardiers comme le B-24, le plus puissant bombardier de la Deuxième Guerre mondiale, le B-24, qui peut franchir 5000 km de distance, qui peut transporter 4 tonnes de bombes et qui constitue un outil de guerre et qui peut constituer un outil de guerre autonome et qui peut agir à l'échelle du monde et plus seulement à l'échelle du continent. Et ce changement d'échelle s'accompagne d'un changement de représentation, puisque c'est en effet le désir de représenter les différents théâtres d'une manière la plus réaliste possible sur une seule carte qui conduit à la diffusion de cartes construites selon le principe de projection azimutale équidistante, centrée sur le pôle Nord, ce type de cartes donc, qui apparaissent au cours de la Deuxième Guerre mondiale et qui permettent d'une manière beaucoup plus réaliste de représenter les distances pour l'hémisphère nord, et qui sont, se relèvent très adaptés donc à la représentation des différents théâtres pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis au développement l'aviation. Ces cartes sont utilisées à partir de 1941 par un journaliste américain, Harrison, pour un magazine, le magazine Fortune, et il les reprend ensuite dans un ouvrage qui paraît en 1944 qui s'appelle Our Air Edge World, et puis elles sont reprises par un ancien aviateur de la Première Guerre mondiale, puis consultant de l'administration américaine, l'administration de l'aviation civile américaine, dans un ouvrage qui s'appelle The Geography of World Air Transport, qui est publié également en 1944, et donc qui permet de mieux se représenter cet hémisphère nord, et qui consacre un petit peu cette rupture avec le 19e, ou avec les mêmes mondes classiques, avec une projection de Mercator centrée sur l'équateur, on pouvait distinguer cet hémisphère oriental et puis cet hémisphère occidental, ce continent américain dans lequel qui était le lieu bien isolé, ce continent américain avec l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, où pouvait se développer cette politique américaine, cette politique de puissance américaine selon la doctrine Monroe. Là, on adopte un autre type de représentation qui est adapté au développement de l'aviation et donc qui abandonne cette vision un petit peu isolationniste des relations internationales et qui est adapté à cette nouvelle vision du monde. Ces réflexions sur le transport aérien sont élargies par Rainer dans son ouvrage, puisque pour lui, le développement de l'aviation a pour principale conséquence trois principales conséquences. La première conséquence est la fin du provincialisme. La deuxième conséquence est la naissance d'une nouvelle géographie. Et puis enfin, c'est la naissance d'une nouvelle géopolitique qui, on le verra, n'est pas d'ailleurs très différente de l'ancienne, celle de Mackinder, par exemple. Pour Rainer, en effet, l'aviation permet la naissance d'une civilisation mondiale, ce que ne permettaient pas les anciens modes de transport, qu'ils soient terrestres, maritimes ou fluviaux, car ils souffrent de nombreuses limitations. Et ce n'est plus le cas avec l'avion, qui met au contact des sociétés les unes avec les autres. Pour lui, l'avion dispose de la capacité, je cite, de devenir un puissant instrument pour promouvoir une communauté mondiale. La deuxième conséquence qu'il voit dans le développement de l'aviation, c'est la recomposition des espaces géographiques compte tenu de leur capacité à être rejoints par la voie des airs. C'est ainsi que, selon une carte qu'il publie également dans son ouvrage, la Grande-Bretagne perd son caractère insulaire et devient un isthme européen depuis qu'elle a été reliée par Blériot qui a survolé la Manche en 1909. Que les mers intérieures se réduisent en taille, c'est le cas que certaines disparaissent, comme la Caspienne, et que les océans viennent à se rétrécir jusqu'à faire se juxtaposer, se joindre presque les continents, en particulier l'Amérique du Sud et l'Afrique, au niveau du détroit de Dakar. Et donc là, une des premières carte, je pense, une représentation, une carte temporelle, compte tenu de cette distance qui est abolie par l'emploi du transport aérien. La troisième conséquence pour Rainer est une conséquence géopolitique. Pour lui, le transport aérien a fait apparaître six zones intermédiaires hautement stratégiques, constituées sous la forme de corridors militaro-commerciaux. Il en distingue six, je ne vais pas les nommer, je vais en donner un tous, un pour donner un exemple. C'est le corridor qui va par exemple, qui part de la Grande-Bretagne en passant par le Groenland jusqu'au nord canadien et qui est une voie de passage et donc qui permet de relier l'ouest du continent eurasiatique à l'Europe du Nord et qui, pour lui, constitue une de ces régions stratégiques qu'il nomme corridor aérien militaro-commerciaux. Rainer, lui aussi, comme ses géographes, en particulier Harrison, utilise des cartes qui sont centrées sur le pôle Nord, et donc qui mettent en valeur l'hémisphère Nord, et puis surtout qui, selon lui, transforme l'océan Arctique en une sorte de mer Méditerranée mondiale. Et cette vision de Rainer permet de distinguer, selon lui, les régions, ce qu'il nomme les régions centrales, qui sont coloriées ici en noir sur la carte, et qui correspondent un petit peu à ce Heartland, enfin pour partie à ce Heartland de Mackinder, et qui, pour lui, ces zones centrales joueront nécessairement un rôle dominant dans les affaires mondiales. Puis il découpe le reste du monde en une zone adjacente, qui figure ici en blanc sur la carte, et puis une zone périphérique en petit point. Donc ces visions du monde ne donnent pas encore naissance aux vastes constructions impériales dont il a été question cet après-midi, mais changent les perceptions de l'organisation et des grands équilibres géographiques et politiques. C'est en fait la guerre froide qui va permettre ces amorces de construction impériale, puisque cette nouvelle vision du monde est concomitante avec la tension qui augmente entre les États-Unis et l'URSS, avec le blocus de Berlin en 1948 et 1949 qui montre la nouvelle importance de l'aviation et du transport aérien. Et le premier à tirer les conséquences militaires, on va dire, à la fois de ce développement du transport aérien et puis de cet nouvel état des relations internationales, c'est un ancien aviateur russe, Alexandre Seversky, qui a été tout d'abord dans l'aéronavale russe avant la révolution bolchevique, où il a remporté plusieurs victoires aériennes, il a remporté 13 victoires aériennes, c'est un as de l'aéronavale russe, et puis il est envoyé aux États-Unis il est blessé, il perd une jambe en combat aérien en 1915, il est envoyé aux États-Unis pour étudier l'industrie aéronautique américaine, et puis il y reste après la révolution bolchevique, il fait ensuite carrière dans l'industrie aéronautique américaine. Il crée des sociétés, il joue un rôle essentiel. Il obtient quelques succès dans le domaine industriel. Et puis surtout, c'est un des plus proches collaborateurs de William Mitchell, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le général américain, qui est le père de l'aviation américaine. Et Seversky, après sa carrière militaire, après sa carrière d'industriel, va mener une carrière de publiciste en publiant plusieurs ouvrages sur l'importance de la puissance aérienne. Le premier est publié en 1942, pendant Deuxième Guerre mondiale, et s'appelle Victory Through Air Power, et qui est le seul ouvrage de stratégie qui a été adapté au cinéma par Walt Disney sous la forme d'un dessin animé. Mais ce n'est pas cet ouvrage qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est l'ouvrage qu'il a écrit en 1950, Air Power, Key to Survival, dans lequel il développe une analyse géopolitique qui tient compte du développement de l'aviation. Et en particulier, toujours en utilisant le même type de carte centrée sur le pôle Nord, il étudie les conséquences militaires du fait que le plus court chemin entre l'URSS et les États-Unis survole le pôle Nord, et donc ça donne naissance au Polar Concept qui a été formulé non pas par Seversky, mais Seversky en fera une grande publicité, qui est formulée pour la première fois en 1946 par le général Arnold, qui est chef d'état-major de ce qui n'est pas encore l'US Air Force, puisque l'US Air Force sera créé en 1947, mais l'US Army Air Force. Et donc ce Polar Concept met l'accent sur le fait que les États-Unis sont menacés par une attaque aérienne brusquée venant du RSS survolant le pôle Nord, et qui peut être d'autant plus dangereuse si l'URSS dispose de la bombe atomique, ce qu'elle va faire en 1949, qui est la date de la première explosion d'une bombe soviétique. Et donc, dans cette conception, dans le polar concept qui est énoncé pour la première fois par Arnold et puis qui est popularisé par Sevorsky, l'Alaska prend un rôle déterminant. Donc, on retrouve l'idée initiale de Mitchell et l'Alaska devient le pivot de la stratégie atomique aérienne américaine. Chez Sevorsky, et donc ça c'est là, il popularise ce polar concept d'Arnold, et puis surtout ce qui est plus original chez Sevorsky, il théorise, alors la carte n'est pas très claire, on a deux grandes sphères qui correspondent au rayon d'action de l'aviation soviétique et au rayon d'action de l'aviation américaine, avec les deux grands centres de pouvoir, un qui est centré sur Moscou et un autre qui est centré sur la côte est américaine. Et c'est pour Sevorsky les deux centres donc de ces deux puissances qui s'affrontent. Et pour lui, la zone de décision entre ces deux puissances, c'est la zone où ces deux cercles se recoupent. Elle est quand même suffisamment large. Et ce qu'il faut, c'est obtenir la supériorité aérienne au sein de cette aire qui se recoupe. Alors, on voit, pour Sevorsky, ne raisonne qu'en fonction des puissances aériennes, il ne tient compte que des puissances aériennes soviétiques ou américaines, il ne tient pas compte d'une puissance aérienne européenne. La seule puissance aérienne dont il tient compte, mais ce n'est pas très lisible sur la carte, puisque la carte est petite, c'est la puissance aérienne britannique. Hein. On voit un petit cercle au-dessus des îles britanniques. Ça signifie pour lui que les îles britanniques peuvent être un relais de cette puissance aérienne américaine. Et puis on voit deux demi-cercles au-dessus du détroit de Bering, qui sont différents de ces deux grands cercles qui formalisent la puissance aérienne, soit de l'Union soviétique, soit des États-Unis, puisque pour lui, ces deux zones d'affrontement sont si proches qu'on peut utiliser, on peut envisager d'utiliser non seulement une puissance aérienne, mais également une puissance navale et une puissance terrestre dans cette logique d'affrontement de la guerre froide. Pour Sevorsky, donc cette puissance aérienne, elle ne peut s'exercer qu'à partir des. C'est une puissance centrale, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être délocalisée dans des bases outre-mer. Et en particulier, il publie ce schéma dans son livre de 1950, où on voit cette puissance aérienne qui est dispersée sur des bases périphériques qui entourent l'Union soviétique. Pour lui, c'est une dispersion de puissance, et que la puissance aérienne des États-Unis, si elle veut agir directement sur la puissance aérienne soviétique, sur l'Union soviétique, doit agir à partir du territoire des États-Unis, et que sinon, entretenir des pôles de puissance aérienne dispersés tout autour du territoire de l'Union soviétique, c'est une irait à l'inverse du principe de concentration des forces. On a Sevorsky s'inscrit contre les théories de Spikeman sur le Rhineland et sur le caractère stratégique du contrôle de Rhineland et cette opposition, elle est liée au rôle de la puissance navale dans les théories de Spikeman, qui néglige pas non plus, qui envisage, qui tient compte également de la puissance aérienne, mais d'une manière moins radicale que Sevorsky. Alors, comment se pourrait. Et donc là, on a une image de ce que pourrait être, un empire de l'air, c'est-à-dire un empire fondé sur le contrôle soit central, soit décentralisé d'une puissance aérienne et de l'influence que cette puissance aérienne peut avoir sur les relations des États. J'ai cherché à montrer. Alors, la question, c'est. Pour terminer, est-ce qu'il existe un empire de l'air ? Est-ce que les États-Unis, par exemple, pourraient être un empire de l'air ? Alors, j'ai cherché une carte avec toutes les bases américaines dispersées dans le monde pendant la guerre froide. Je n'ai pas trouvé. J'en confectionnerai une pour les actes avec une carte centrée sur le pôle Nord. Et donc là, j'ai trouvé cette carte où on voit toutes les bases aériennes russes, américaines, françaises, britanniques et américaines, bien sûr, les principales bases dispersées. C'est la période actuelle, donc il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais on voit quand même bien les bases de Guam, c'est 12, les bases en Corée, les bases au Japon, 10 et 11, Diego Garza, 14, les bases aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, maintenant c'est 16, les bases américaines en Grande-Bretagne, on ne voit pas la base de Tulé, mais parce qu'elle a été fermée il n'y a pas très longtemps, mais on voit bien on imagine bien ce chapelet de bases aériennes qui ceinture le territoire des États-Unis. Et on pourrait dire que si ce n'est que pendant qu'il y a eu pendant la guerre froide ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un empire de l'air qui se fonde sur cette dispersion de bases autour du territoire de l'Union soviétique, puisque c'est plutôt la vision de Spike Man et du containment qui a été adoptée par l'administration américaine, mais qui a également d'autres fondements que je n'ai pas le temps d'aborder ici, qui sont des fondements industriels, qui sont des fondements qui s'appuient également sur l'US Air Force. On a aujourd'hui l'US Air Force, tous les avions qui sont en service dans les différentes armées des États-Unis, ça représente 13 000 avions sur en tout 52 000 avions dans le monde. Donc on a vraiment une prééminence de l'aviation américaine. C'est une prééminence, et si on compte tous les avions américains qui sont achetés et mis en service dans toutes les armées de l'air étrangères, avec par exemple des F-16, des S-15 ou même des avions de transport Hercule ou quoi que ce soit, ou d'autres types d'avions, on a un tiers des avions en service dans le monde, que ce soit en avion de chasse ou en avion de transport, sont des avions qui ont été produits par l'industrie aéronautique américaine. Et on pourrait étendre cette puissance aérienne, cet empire de l'air, il s'étend également aux compagnies aériennes civiles, puisque les quatre plus grandes compagnies aériennes civiles américaines, Delta Airlines et trois autres, totalisent 15% du transport voyageurs des 3 milliards de passagers qui sont transportés dans le monde. Donc voilà, je pense, quelques éléments qui permettent de dire qu'il y a eu une amorce. Alors après ça, il faudrait se passer sur une période, ça se situe à l'échelle des périodes qui ont été envisagées cet après-midi, ça se situe sur une toute petite période. On a peut-être l'amorce d'une construction impériale à partir de ces nouveaux moyens de puissance. Et ce matin, le professeur Margueron se demandait s'il existait un milieu mésopotamien qui favoriserait la construction d'empires. On peut se demander si le milieu aérien, à l'échelle historique, ne favorise pas la formation d'un empire. Et ce qui constitue sans doute un instrument privilégié de ce processus de coalescence dont Jean Béchler a parlé hier. Et si on peut identifier un processus de construction impériale avec une unification culturelle, par exemple, comme en Inde, ou un processus de construction d'infrastructures, certes pas aussi sophistiqué qu'en Chine du Nord, Est, ou que celui que le professeur Lévin a décrit hier pour l'Empire des Incas, on a quelque chose de comparable dans son essence avec ce chapelet d'infrastructures aériennes qu'on peut retrouver dispersées à la surface du globe. Voilà, je vous remercie de votre attention.
J'ai une question et un point, un commentaire. Il me semble que, après 1945, les bases américaines sont aussi des bases britanniques, notamment en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que c'est l'une des conséquences de la relation dite spéciale, c'est qu'il y a une sorte de mutualisation des forces aériennes. Donc, est-ce que l'empire des airs américains devient un empire anglo-américain, en tout cas en Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne servait de base avancée en fait en Europe pour les Américains. Ça c'est, enfin, c'est une question.
Je pense que c'est la même chose à Diego Garcia qui a été laissé, qui était une base britannique, qui a été ensuite laissée aux Américains. Donc je pense que d'une manière plus pragmatique. Il n'y a pas une puissance anglo-américaine, mais il y a une puissance américaine qui s'élève sur les ruines de la puissance britannique, enfin, d'une manière un petit peu brutale. Hein. On a, si je peux dire, une puissance mondiale qui succède à une autre puissance mondiale en reprenant ses bases.
J'avais une deuxième question, parce que je m'intéresse aux années 30, en fait, depuis 2-3 ans. Et notamment aux questions stratégiques, est-ce que tout ce que vous avez raconté, qui est passionnant sur la géopolitique de l'air, en quelque sorte, on en trouve des échos dans la pensée géopolitique britannique? Est-ce qu'il y a des réponses, en fait, parce que dans les années 30, il y a des débats assez féroces en Grande-Bretagne, comme vous savez, sur la répartition du budget militaire entre la marine en particulier et la Royal Air Force, et ils ont des choix très douloureux à faire, et contrairement à ce qu'on a longtemps dit, Chamberlain a plutôt été favorable à l'idée d'allouer des ressources budgétaires au développement de la Royal Air Force. Mais je voudrais savoir si vous savez si ça a été fait sur la base d'un white paper ou d'un... parce que ce que j'ai lu n'est pas... Dans tout ce que j'ai pu lire, qui est limité, hein, je suis très faiblement savant sur cette période, je n'ai pas trouvé d'écho de tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire, alors qu'ils étaient assez au fait de ce qui se passait en Allemagne, ça les intéressait.
Oui, il y a beaucoup de traductions. On trouve dans les journaux du Rusi, etc., beaucoup d'articles d'allemands qui sont traduits. Ils sont très ouverts sur la pensée militaire et doctrinale allemande. Il ne me semble pas que c'est vraiment spécifique, c'est l'école géopolitique allemande. Hein, vraiment, il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose de comparable, de géopoliticien comparable en Grande-Bretagne. On a des théoriciens anglais qui s'intéressent aux questions aériennes. Le plus grand, c'est J.M. Spegg, que vous avez peut-être croisé, qui est un auteur le plus prolifique de l'entre-deux-guerres. Mais on n'a pas du tout le même type de raisonnement. Donc voilà pour ce qui est, si je peux dire, théorique. Et en ce qui concerne l'attribution des crédits, le choix de Chamberlain pour la Royal Air Force, c'est un choix, c'est la peur du knock-out blow dont on parle beaucoup à partir des années 1920. C'est plus pour des... Quand on voit les arbitrages qui ont été faits en 1934-1935 au sein du gouvernement britannique en faveur de la construction soit d'une force offensive autour d'un bombardier, soit d'une force défensive autour d'un chasseur, c'est le politique sous la pression populaire, en grande partie populaire, je crois, qui va choisir pour le chasseur, pour la défense, alors que le militaire, lui, les militaires de la Royal Air Force, du fait de leur culture stratégique, du fait de l'expérience de la Première Guerre mondiale, proposeront toujours au gouvernement britannique de développer le bombardier. Donc il n'y a pas eu de... Ce que je veux dire, c'est des choix politiques qui sont inspirés par... non pas par une théorie militaire, doctrinale militaire, ou par une théorie géopolitique. Pour moi, c'est plus davantage des choix pour rassurer l'opinion publique.
Mon scepticisme est le suivant. Enfin, je ne suis pas sûr que le mot convienne. Bon, supposons, prenant cette carte, qu'il n'y ait plus que des ronds américains. Les États-Unis ou russes, peu importe. Enfin, les Américains ont la maîtrise des airs, ou autre expression, une hégémonie indiscutée de l'air. Et alors, où est l'empire?
C'est pas un empire. C'est pas l'empire des Mongols.
Non, mais quelles sont les conséquences?
C'est une nouvelle forme d'empire d'influence mondiale. C'est-à-dire qu'une partie, c'est l'idée qu'une partie de l'influence mondiale et du rôle mondial et du rôle d'hyperpuissance américaine tient en grande partie de cette puissance américaine.
Bon, le cinéma est encore en grande partie dominé par Hollywood, par le cinéma américain. Bon, c'est pas 100%, mais tout de même, ce sont les guides d'opinion, et ils le sont dans beaucoup de domaines scientifiques également. Donc, il y a un pays, enfin, qui occupe une position, disons, hégémonique dans le monde. Je ne vois. Est-ce que l'usage du mot empire se justifie? Je n'en suis pas certain.
Enfin, on peut parler de l'empire d'Hollywood.
De
l'empire d'Hollywood. C'est une expression.
Oui, oui, d'accord, mais je. Oui, oui, non, enfin bon, ça. Autrement dit, pour moi, un empire, c'est une politique qui inclut des peuples, des cultures, éventuellement des civilisations hétérogènes, si vous voulez, maintenues, si vous voulez, de manière plus ou moins cohérente, par un pouvoir politique centralisé, équipé d'une armée, d'une police, d'une administration capable de gérer cela. Autrement dit, on revient au débat de hier, c'était hier matin, sur la territorialité. Enfin, il s'agit tout de même de construction politique. Et construction politique, c'est un pouvoir exercé sur un certain espace terrestre, enfin là où habitent les gens, tout simplement, là où habitent les gens. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Si, si, c'est une autre forme d'empire, je veux dire. Ce n'est pas, ouais, pas un empire avec une police, ce n'est pas un empire avec des citadelles qui sont construites à la limite de cet empire, avec des routes américaines, mais c'est une forme, d'empire. D'hyperpuissance, d'influence qu'ils font. Les États-Unis aujourd'hui sont capables, grâce à leur puissance aérienne, grâce à leur base, d'intervenir partout dans le monde.
Oui, mais jusqu'ici, ça a complètement échoué, enfin, ces dernières années.
Après ça, je n'ai pas dit qu'ils pouvaient venir à obtenir des succès politiques, mais ils sont capables d'intervenir partout pour défendre leurs intérêts de puissance.
Oui, mais encore, est-ce que c'est adapté au type de menace, au type de conflit, etc.
J'ai pas dit que c'était une bonne politique.
Oui, non, mais
ils sont capables d'intervenir.
J'essaie de vous pousser, si vous voulez, pour parvenir, mais il est probablement trop tard pour que moi, en tout cas, je puisse parvenir très loin. Trop tard, je veux dire, aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui me gêne, si vous voulez, dans cette manière. Je me demande si, si ce n'est pas une métaphore. Voilà. Alors bon, je veux bien.
C'est possible. Et il faut tenir compte aussi de l'échelle historique. Hein. Quand on parle de l'Empire chinois, quand on parle de l'Empire péruvien, ou d'autres, ou de l'Empire indien, on parle sur plusieurs siècles. Hein. Là, on parle de même pas un siècle. Même pas un siècle. Donc, je pense que, c'est une analogie, mais qui est quand même intéressant de pousser, parce que on a, sous une forme qui est différente, qui n'est pas une domination terrestre, qui n'est pas une domination navale, ici, une certaine forme de construction impériale à partir de
l'air.
À partir de l'air. Ben,
je serais davantage convaincu si, là, je reviens, tous les cercles sont américains, il en résultait que partout dans le monde, toute velléité de lutte armée, non pas aérienne, mais quelle qu'elle soit, puisse être anéanti dans l'œuf, tué, enfin, ou contrôlé, maîtrisé, ce qui me paraît très très difficile à concevoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire,
oui,
enfin,
parce que
si c'est un monopole de la puissance, là on peut parler d'empire, mais est-ce que l'air confère un monopole de la puissance?
Est-ce qu'il n'y a pas de révolte dans l'Empire Inca? Est-ce que... Il n'y a pas de révolte.
Il contrôlait très bien,
mais ça n'empêchait pas les révoltes.
Il y avait des forces, enfin des forces qui étaient capables de contrer. Alors évidemment, s'ils échouaient, le régime s'effondrait. Mais. Je crois que c'est un point important. Là,
Je ne sais pas si on peut parler de révolte, en fait, c'est plus de présence privilégiée, en fait,
à l'heure actuelle, oui, mais on suppose que ça a été poussé beaucoup plus loin et qu'il n'y a plus que des avions américains dans le ciel.
Il me semble que dans ce cas-là, si on suit votre raisonnement jusqu'à ce terme, il faudrait réfléchir à la notion d'empire spatial, parce que maintenant c'est la nouvelle, le nouvel espace. Grotius a dit que l'air, comme la mer, est un patrimoine commun, mais il est de moins en moins si vous avez des grandes puissances, pas comme la Chine, qui ont des prétentions spatiales. Donc est-ce que vous pourrez poser la question pour votre raisonnement ? Et la deuxième chose, c'est que il me semble que l'Empire, c'est, je suis tout à fait d'accord sur la territorialité, c'est aussi un langage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on voit l'évolution des notions impériales, en particulier en Grande-Bretagne, par rapport à l'Irlande, par exemple, qui était sa première colonie, qui était sa colonie, le laboratoire de son empire, c'est, il y a vraiment un développement d'un langage sur son empire, une rhétorique de l'empire. Donc il faudrait se demander si les Américains ont une rhétorique de l'empire des airs. Vous avez parlé des grands traités, mais est-ce qu'il y a vraiment une rhétorique qui se développe autour de cette notion d'empire des airs ? En dehors des traités, des milieux de la défense, on va dire, oui, des milieux gouvernementaux qui sont là pour donner justement des idées.
Alors bon, c'est pas c'est une théorie que je lance comme ça comme un ballon d'essai. Hein. Je veux dire, c'est
quelque chose. Oui, non, mais c'est
quelque chose de nouveau. Je me suis dit que dans le cadre de ce colloque, c'était le moment de regrouper quelques connaissances éparses pour essayer de valider, tout au moins de formuler cette histoire d'empire de l'air. Mais c'est un élément de cette puissance aérienne et cet empire de l'air, c'est un élément. Ensuite, il faut voir les éléments culturels et les éléments civilisationnels. Mais moi, il me semble quand même que c'est un des instruments de cette coalescence, de ce processus de coalescence.
Oui, ça, oui. Ouais. Moi, je suis persuadé que nous sommes entrés dans la phase d'unification politique de la planète. Alors, ça durera peut-être 500 ans ou 1000 ans, mais je ne pense pas que cette unification se fasse par la voie impériale, c'est-à-dire par la conquête d'une politique qui absorberait tout. Je le vois bien davantage par une multitude d'initiatives du genre agence du carbone dans l'air, enfin, chargée, si vous voulez, de gérer des problèmes communs à l'humanité, parce qu'il y en a de plus en plus, et progressivement, enfin, mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, il y aurait quelque chose un peu... Je pense que la construction européenne préfigure ce qui pourrait se passer à l'échelle planétaire, avec toutes les difficultés. Il n'y a pas de précédent, enfin, à la construction européenne. Mais il faudrait s'en persuader. Donc, si on dit « Oh, ça ne marche pas, Bruxelles, etc. » C'est normal, puisqu'on n'a pas de précédent. Et donc je verrais plutôt ça. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des guerres, des catastrophes et ainsi de suite. Mais l'idée d'une politique dominant la planète, j'arrive pas à l'imaginer. Alors, cela dit, moi, mon imagination est peut-être débile, ça je vous le concède. Enfin. Mais après tout, personne ne connaît l'avenir. Et donc s'intéresser à l'avenir n'a qu'une seule utilité, comprendre ce qui se passe dans le présent. Donc ce sont des scénarios dont on essaye, que l'on construit, dont on essaye d'estimer la probabilité qu'ils se réalisent, avec des chances infinies de se tromper. Mais ça permet de voir dans le monde présent ce qui se dessine, si vous voulez. Et donc, voilà deux scénarios extrêmes. L'Empire et l'Union européenne, il faudrait trouver autre chose. L'avenir impérial ou l'avenir helvétique, enfin,